Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Comment notre corps fait-il pour produire l'énergie qui nous permet de courir? Et quel impact est-ce que ça a sur nos allures de course? C'est le cœur de cette Minute Perf. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perf. Chaque début de semaine, je propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser encore plus. Avec l'or, nous proposons des zooms, des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Et aujourd'hui, on va rentrer un peu dans la technique du corps. VMA, seuil, VO2 max, lactate, seuil, aérobie, anaérobie. Tous ces termes, vous les avez croisés, vous les voyez passer dans les plans d'entraînement, dans les magazines, sur les comptes Instagram, dans les vidéos, dans les épisodes du podcast. Mais à quoi correspondent-ils vraiment? Et comment notre corps fonctionne-t-il quand nous bougeons, quand nous courons? Comment génère-t-il de l'énergie pour permettre à nos muscles de fonctionner avec autant de force et de puissance pour qu'on court de plus en plus vite? Avec l'or, nous discutons des filières énergétiques et de leur impact sur notre entraînement ou notre gestion de course. Je dois vous dire que j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et je pense que ce sera aussi votre cas. Allez, c'est parti. Bonsoir Laure.
Bonsoir Bertrand.
Comment vas-tu?
Bah écoute, je vais toujours aussi bien. Et toi?
Eh ben écoute, moi aujourd'hui j'ai attaqué les chocolats de Noël, j'ai attaqué les papillotes. Nous sommes officiellement aujourd'hui rentrés dans la saison des papillotes. Et tu sais que j'ai une tradition, toi qui écoutes le podcast très longtemps, tu sais que j'ai une tradition. Quand on arrive dans cette période-là, en fait, moi j'aime bien les papillotes. C'est pas pour le chocolat, enfin si pour le chocolat, mais pour les petites citations. Et tu sais ce que je vais faire? Je vais te donner la citation, tu vas me dire si elle t'inspire quelque chose.
Vas-y, je t'écoute.
Proverbe chinois, pour les habits, rien ne vaut les neufs, pour les amis, rien ne vaut les vieux. Bon, alors, je ne sais pas si on peut en faire quelque chose sur la performance, mais...
Là, c'est compliqué de faire des liens. Alors après, il y aura des choses à raconter, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Les amis, il y a de très bons nouveaux amis qu'on peut se faire avec des rencontres de la vie, notamment quand on change de lieu. Et crois-moi, il y a des très bons nouveaux amis qui ont tout autant de valeur que des très vieux amis.
Bon.
Alors à mes nouveaux amis, hein.
Si, mes nouveaux amis, si vous écoutez, voilà, tout va bien. Alors, c'est, n'empêche qu'on pourrait, le transférer dans d'autres choses. On pourrait dire, tu sais, sur les habitudes aussi, on peut les changer. Est-ce qu'il vaut mieux changer ses habitudes, etc. Et ça m'amène dans notre sujet du jour. Sur le mouvement, en fait, sur les croyances qu'on peut avoir sur le mouvement, sur à quelle vitesse on bouge, comment on bouge, est-ce qu'on est sédentaire, pas sédentaire, toutes ces thématiques-là dont on discute. Alors, les gens ne le savent pas, mais on s'envoie plein de messages quand on va courir. Et la thématique de la sédentarité, du mouvement, de ce que nous dit l'OMS sur le mouvement, etc., nous agite un peu, nous deux, mais aussi agite un petit peu dans le Hamster Running Club, ceux qui se posent des questions. Et on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça dans les épisodes de Minute Perf qui viennent dans les différents épisodes. Je dois te dire aussi un autre truc, c'est que tu as des fans. Hein. Tu commences à avoir tes fans dans le Hamster Running Club. Il y en a qui adorent le format, qui adorent les discussions et tout. Donc voilà, hein, je t'installe bien, tu vois, t'es cool. T'es bon? T'es prête?
Bon, bah, je te remercie Bertrand. Mais alors là, je trouve que tu étais déjà super bon en introduction, mais là, je trouve que tu as quand même fait une belle intro. Je trouve ça effectivement très intéressant, cette idée de se dire que l'idée des habitudes, de changer nos habitudes, et parfois, effectivement, souvent, nos vieilles habitudes sont pas forcément les meilleures. Alors, il y a de vieilles habitudes qu'on ancre parce qu'on les a construites, mais il y a des nouvelles habitudes aussi à construire, et c'est très compliqué. Hein. C'est ce que je dis toujours aux personnes que j'accompagne, c'est que la difficulté, c'est de sortir de sa zone de confort, et une fois qu'on est sorti, on en a déjà parlé, mais c'est toujours beaucoup plus simple. Merci de ta petite remarque sur les fans. Je pense pas avoir beaucoup de fans, mais en tout cas, s'il y a des gens qui apprécient le nouveau format, je le trouve dynamique aussi et je trouve ça chouette, mais je pense que tu y contribues tout aussi largement que moi. Bon. Alors, ce que je te propose, Bertrand, c'est que on envisage un petit peu ces deux épisodes qui vont suivre. Donc effectivement, nous, on est pas mal animés en ce moment tous les deux par cette question de la sédentarité et de l'activité physique, et l'un et l'autre. Et on a décidé d'en faire deux épisodes pour ne pas faire des épisodes trop dans lesquels on rentrerait pas suffisamment dans un niveau de détail qui nous paraîtrait intéressant. Donc, on va interroger le spectre, en fait, sur deux épisodes, de la sédentarité jusqu'à l'activité physique intense. On a fait le choix de commencer par l'activité physique parce que finalement, ben, on est gentil, on pense que c'est des choses qui sont les moins perturbantes pour les personnes qui nous écoutent. On pense que ce sont des éléments qu'on a un petit peu tous dans notre quotidien, malgré tout. L'angle par lequel on va rentrer aujourd'hui, c'est quand même d'apporter des éléments. Et notamment, l'angle qu'on a choisi, c'est de dire, OK, l'OMS nous recommande, enfin, nous fait des recommandations, on va voir lesquelles. Avec des intensités, on va voir lesquelles. Et nous, ce qu'on trouvait intéressant, c'est de dire, OK, à partir de ces recommandations, comment on peut faire le parallèle avec notre quotidien de sportif et nos intensités de sportif? Et donc, que c'était l'occasion aussi de comprendre, de mieux comprendre les filières énergétiques, parce qu'on entend souvent parler des filières énergétiques, mais ça reste un concept qui est pas forcément très compliqué quand on l'explique bien, mais qui peut paraître encore flou et abstrait pour certains. Qu'est-ce que tu penses de ce programme, Bertrand?
Alors moi, ce programme, il me va bien, surtout qu'en plus, je pense que les gens vont regarder leur montre après d'une manière totalement différente, vont regarder leur programme d'entraînement d'une manière totalement différente, et vont regarder aussi un petit peu leur manière de vivre un peu après. Alors après ces épisodes, c'est sûr que, parce que je sais que les questions sur la sédentarité ont beaucoup bougé, un peu les questionnements, etc. Mais sur ces histoires d'allure, sur ces histoires d'activité modérée, intense, qu'est-ce qu'on doit faire et tout. Il y a tellement de choses qu'on a entendues, il y a tellement de choses qui circulent que, et puis il y a des termes qui sont totalement abstraits, incompréhensibles, etc. pour la majorité des gens, qui en tout cas des débutants, hein, on a beaucoup de débutants, ou des gens qui sont dans le début de leur apprentissage et tout, que je crois que c'est vraiment nécessaire qu'on rentre là-dedans dans le sujet. Moi, tu sais bien, je suis le petit padawan qui découvre tout. Toi, t'as le savoir. Alors, par quoi on commence?
Allez, c'est parti. Ben moi, je propose, comme je le dis toujours, il faut toujours définir les choses avant de commencer. Donc, je propose qu'on distingue deux notions importantes aujourd'hui. C'est la question de l'activité physique et de l'inactivité physique. Et donc, ben pour ça, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de reprendre les définitions de l'OMS. L'OMS a dit que l'activité physique, c'est un mouvement corporel qui est produit par les muscles squelettiques et qui demande une dépense d'énergie. Donc, ben là, tout de suite, ça fait référence à ce pourquoi nous, on a décidé de travailler sur les filières énergétiques, parce que qui dit dépense d'énergie dit création d'énergie. Et donc, qui dit comment le corps, il nous apporte de l'énergie. Et on va voir tout à l'heure que finalement, les filières énergétiques, c'est exactement ça. C'est comment le corps nous permet de reconstituer de l'énergie parce qu'on ne peut pas sans cesse manger des glucides en permanence. Donc, l'OMS nous dit qu'elle peut être pratiquée à différents niveaux d'intensité. C'est ce qui nous intéresse aussi, dans le cadre du travail, des tâches ménagères, de déplacement ou d'activités de loisirs, ou encore en participant à des séances d'exercice ou de sport. Donc d'emblée, on voit bien à travers cette définition qu'il existe plusieurs niveaux d'intensité de la pratique physique. Ce qui s'oppose à l'inactivité, qui est défini comme un niveau d'activité insuffisant vis-à-vis des recommandations. Donc moi, je trouve que cette définition, elle n'est pas claire du tout. En gros, on dit qu'être inactif physiquement, c'est ne pas respecter les recommandations. Alors oui, mais non. Ça voudrait dire qu'en fait, si on reprend la définition de l'activité physique à l'envers, on pourrait considérer que l'inactivité physique, c'est le fait de justement ne pas avoir suffisamment de mouvements corporels et donc ne pas mettre suffisamment notre corps, ne pas demander suffisamment à notre corps de dépenser de l'énergie au quotidien. Faut quand même rappeler un tout petit peu une base de physiologie de l'organisme assez simple et en même temps qui nous anime tout le temps. C'est cette idée que notre corps n'est qu'une somme d'entrée et de sortie d'énergie. C'est-à-dire que l'on est ce qu'on est parce que on reste stable dans ce que l'on est en termes de poids corporel notamment, parce que nos entrées énergétiques sont égales à nos sorties énergétiques. Donc là, on voit bien que on va traiter cette question de la dépense énergétique. Alors moi, en creusant un petit peu l'épisode, j'ai redécouvert une notion dont j'avais entendu parler il y a quelques années. C'est la question du MET. Alors le MET, c'est le Metabolic Equivalent of Task. Donc en fait, c'est une méthode qui va permettre de mesurer l'intensité de l'activité physique et de la dépense énergétique. Alors c'est à la fois très intéressant parce que ben d'ailleurs, c'est pour répondre à une de tes questions, Bertrand, dont tu m'as posé que tu m'as posé en off, hein, qui était de dire mais est-ce qu'on pourrait pas envisager une sorte de score pour connaître un peu son activité physique, etc. au quotidien? Et donc en fait, le MET, c'est l'avantage du MET, c'est que ben, globalement, c'est des chiffres. Donc en gros, on distingue trois types d'intensité, légère, modérée, intense. Et en fonction de ça, il y a un MET qui est plus ou moins grand ou plus ou moins petit. Donc, par exemple, dormir, c'est 0,9 MET. Alors, le MET, hein, globalement, c'est une échelle d'équivalence métabolique. Hein, donc, on est sur, on n'a pas d'unité. Et voilà. Et par exemple, à l'opposé du spectre, courir très, très, très vite. Alors, là, ils disent courir au-delà de 17 km/h, mais ça ne veut tout et rien dire parce qu'en fait, finalement, ça va vraiment dépendre de la VMA de l'individu. Ça va dépendre de tout un tas de choses, de son poids corporel, de la température extérieure, etc. Donc c'est quand même, ça reste un petit peu limitant. Donc ça donne une échelle intéressante pour pouvoir trier un petit peu les infos. Malgré tout, c'est limitant. Et c'est là où je rebondis un petit peu aussi sur l'idée de l'épisode d'aujourd'hui. Ça va être d'identifier un peu ces fameuses intensités et d'être capable nous-mêmes dans notre quotidien de se dire à peu près d'être autonome en se disant bah tiens. Là, je suis plutôt dans une intensité de type modéré et là, plutôt intense. C'est vraiment ce qu'on veut faire passer comme message. Donc, je reprends toujours un petit peu, je pose des bases, la théorie qui sont importantes malgré tout. Hein. Et puis ensuite, on rentrera dans un niveau de détail un peu plus concret. Mais l'OMS distingue ces trois types d'intensité. L'intensité faible, c'est un mètre de 1 à 3, 1,5 à 3. C'est-à-dire une dépense énergétique qui est trois fois la dépense au repos globalement, maximum. Donc pour eux, c'est la marche, le fait de vraiment de ne pas augmenter de manière substantielle la fréquence cardiaque. Ensuite, ils parlent de l'intensité modérée, et là, ça va commencer à devenir intéressant, parce que pour eux, globalement, c'est une activité d'intensité 3 à 6 fois supérieure à celle du repos. Donc là, on peut envisager que ça peut être vraiment de la marche pour quand on est en retard à un rendez-vous, quand on va au travail et qu'on est un petit peu pressé. Donc ça devient une intensité qu'on a un peu dans notre quotidien, nous en tant que sportifs, et on en rediscutera surtout sur l'épisode sur la sédentarité, mais c'est vrai que ces activités physiques de faible intensité, on va avoir tendance un petit peu à les occulter et à avoir des difficultés surtout à les identifier. Alors qu'une intensité modérée, voilà, on va sentir qu'on va commencer un tout petit peu à s'échauffer, on va arriver un petit peu avec la chemise un petit peu trempée au bureau, et puis... Voilà, c'est typiquement une intensité modérée. Et les intensités soutenues, c'est au moins 6 mètres. Donc, c'est au moins 6 fois ce que l'individu fait au repos. Donc, d'emblée, on voit plein de choses. On voit plein de choses parce que on parlait beaucoup des facteurs intrapersonnels pour le stress. Mais là, c'est la même chose. C'est-à-dire que, oui, ici, on nous dit que le mètre pour dormir, c'est 0,9. Mais typiquement, on sait que plus on s'entraîne, plus notre fréquence cardiaque de repos, elle va descendre. Plus notre débit ventilatoire, il va descendre aussi. Donc, typiquement, une personne qui est entraînée par rapport à une personne qui n'est pas entraînée, la dépense énergétique de repos sera différente entre ces deux individus. Et donc, ça entraîne des intensités différentes, et c'est là où ça devient intéressant de se dire, OK, comment dans mon quotidien je peux identifier ces différentes intensités? Donc, juste pour terminer là-dessus, et après j'arrête avec tout ce point de départ théorique, mais l'OMS, qu'est-ce qu'elle nous dit en termes de recommandations? Elle nous dit simplement qu'un adulte, donc le document est assez bien fait, on pourra sans doute le mettre dans les notes de l'épisode, il y a tout un document qui a été fait, et il y a aussi ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y a des recommandations pour les enfants, des personnes âgées, mais aussi j'ai trouvé sur les femmes enceintes, et après l'accouchement, ça j'ai trouvé ça super, parce qu'effectivement c'est une population qu'on a trop tendance à délaisser en termes d'activité physique. Donc c'est assez intéressant. Donc les adultes, nous, on devrait pratiquer 150 à 300 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine et au moins 75 à 150 d'activité soutenue. Ou une combinaison des deux. Ça voudrait dire qu'en fait, globalement, si je fais 75 minutes d'activité physique soutenue, bien ça compte, ça peut compter comme 150 minutes modérées. Alors, moi, je pense que ça, c'est intéressant. Alors, depuis qu'on est dans cette thématique, Bertrand, je te cache pas que j'ai changé tous les paramètres de ma montre. Moi, je suis très accro à ma montre. Hein, ma Garmin ou peu importe, c'est une marque. Hein, mais nos montres font ces calculs-là. Et ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que comment elles font les calculs? Elles font les calculs par rapport à nos fréquences cardiaques. Et notamment, c'est là où j'en reviens à cette variable individuelle. Hein, c'est que nos montres, elles font ces calculs par rapport à nos fréquences cardiaques de repos et nos fréquences cardiaques maximales personnelles. Et on peut également fixer les zones à partir desquelles on considère qu'on est dans une allure d'intensité modérée et une allure intense. Donc, on verra peut-être à la fin de l'épisode quels conseils on peut donner pour faire tout ça. Bertrand, qu'est-ce que tu penses de cette introduction?
Moi, je trouve que l'introduction, elle est parfaite. C'est vrai que ça pose plein de questions. Alors, la définition de l'OMS, c'est vrai que sur l'activité, l'inactivité, déjà, bon, c'est vrai que l'histoire de l'inactivité, c'est un petit peu flou sur leur définition, Par contre, c'est vrai que leurs recommandations, et on mettra le lien vers le document, parce que je l'avais déjà cité ce document, c'est vrai que suivant les âges, suivant, il y a plein de choses hein, où ils ont mis plein d'activités différentes. Moi, il y avait quand même une question qui se posait, c'est parce que en fait, il y a ces espèces de mix là qui disent qu'en fait, donc minimum 150 minutes d'activité physique d'aérobie intensité modérée par semaine ou au moins 75 minutes d'activité physique vigoureuse par semaine. Et tu vois, la question que je m'étais posée quand même, je me disais, mais est-ce que finalement, ce qui est bon, c'est pas la combinaison des deux et de se dire que finalement, de faire que de l'intensité vigoureuse, eh ben, est-ce que ça suffit, tu vois? Parce que ils disent pas que en fait il y a comment dire, tu vois, ce 150 qui peut être remplacé par ces 75 minutes, etc. Moi, j'avais tendance à penser quand même qu'il fallait des deux, tu vois, de dire il faut du modéré et de l'intensité parce qu'on a besoin des deux dans la construction du corps, dans le mouvement, etc. Et que d'ailleurs que si on fait que de l'intensité importante mais plus courte, on aurait une tendance à être quand même plus sédentaire, à moins bouger globalement, tu vois.
Alors, il y a plein de questions dans ta question et je vais essayer de d'y répondre de manière la plus globale possible. Moi, je repense beaucoup à l'épisode que tu as enregistré avec le professeur Carré, qui est cardiologue au CHU de Rennes, qui expliquait ça, qui expliquait vraiment que la combinaison des deux allures, elle était nécessaire. Donc ici, l'OMS nous dit « ou ». Et on insiste bien sur le « ou », donc ça veut dire l'un ou l'autre, hein. Ou une combinaison. L'OMS ne nous dit pas préférer une combinaison. Alors que le cardiologue dont on parle, Monsieur Carré, là, le professeur Carré, lui, il est catégorique là-dessus. Il dit clairement que faire de l'activité physique modérée, ça ne suffit pas parce qu'il faut le corps est fait pour transpirer, le corps est fait pour évacuer des toxines par la transpiration notamment, et qu'on a besoin de mettre en jeu nos processus métaboliques d'intensité soutenue. Et donc ça, effectivement, ça s'entend hein, d'un point de vue naturel, d'un point de vue de la santé, ça s'entend parce que on a des fonctions qu'on appelle les fonctions émonctoires, qui sont effectivement là pour évacuer l'ensemble des toxines du corps. Et c'est vrai que sur une intensité modérée, on va pas mettre en jeu les mêmes processus. Donc après, il y a cette idée là. L'OMS rajoute quand même quelque chose que j'ai occulté, c'est le fait de pratiquer au moins deux fois par semaine des activités de renforcement musculaire d'intensité modérée à plus soutenue. Alors là, c'est pareil en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien ce que c'est que les séances de HIIT, de body combat, de body attack, etc. Typiquement, on est vraiment sur une combinaison de processus aérobie et de processus de renforcement musculaire. Selon s'il y a des charges ou pas de charges, mais si on fait une séance en fractionné avec des squats, des pompes, des burpees, on est vraiment sur un mix des deux, c'est-à-dire qu'on est sur une intensité cardio et en même temps, on est sur des activités de renforcement musculaire parce qu'on fait travailler les principaux groupes musculaires. Donc on voit bien que ces recommandations, c'est des recommandations globales. Je pense que l'objectif, c'est quand même de parler à un maximum de la population, de vulgariser un maximum les informations. Et c'est peut-être ça aussi, nous, le message qu'on veut faire passer ce soir, c'est que y a une différence entre suivre ces recommandations, c'était vraiment ça le point de départ de notre réflexion, il y a une différence entre suivre ces recommandations, à savoir si je ne suis pas sportif, que je suis sédentaire et que je me mette à l'activité, c'est un premier pas vers l'activité physique, c'est-à-dire que ça me donne des grands axes, des grandes orientations pour me mettre à l'activité physique. Et la porte d'entrée qu'on voulait vraiment aborder ce soir, Bertrand, c'était cette idée de dire, OK, là, on nous parle d'activité modérée, intense. Concrètement, nous, on est sportif. Moi, je suis sportif ou je suis, même si je suis sportif une fois par semaine, hein, même si je fais une fois par semaine un footing, que je vais profiter du week-end pour m'aérer, etc. Concrètement, comment je peux, rien qu'avec cette séance, atteindre ces recommandations et comment dans cette ou ces deux séances par semaine, je peux envisager ces deux types d'allures ou ces deux types d'intensité tout simplement. Et donc, là vient la question de finalement comment fonctionne notre corps à l'effort. Et c'est là où la porte d'entrée des filières énergétiques s'avère intéressante.
Mais tu vois, sur l'histoire de si je vais courir qu'une fois par semaine, par contre, la recommandation de l'OMS, elle est quand même super dure à tenir parce que ça fait quand même un volume de ta sortie. Tu vas courir une fois par semaine, il faut faire 150 minutes modérées, 75 minutes d'activité physique d'intensité vigoureuse. Celui qui s'entraîne qu'une fois par semaine, le vigoureux de 75 minutes, il va le sentir passer. Je suis pas sûr qu'il y ait tous les dimanches matin, il ait envie de le faire. Tu vois, sur la motivation, alors je dis pas qu'on peut pas le faire, mais ça peut engendrer, des fois, moi je dis, hein, des séances qui sont très fatigantes. Si tu te dis, ouais, je fais tout mon bloc comme ça, c'est fait pour la semaine. Je suis pas certain, tu vois, que l'histoire de... Enfin, tu vois, moi j'ai mis dans mes notes, je disais, l'histoire de dire que eux ils étaient allés sur la semaine. Je trouvais que c'était intéressant d'être allé sur la semaine. D'avoir de se dire bah finalement on peut faire aller alors on verra sur les histoires d'intensité mais on peut faire 2-3 fois dans la semaine quelque chose qui est un peu plus vigoureux que de la marche sans aller dans des intensités très élevées et puis à un moment donné on peut faire peut-être qu'il y a une séance qui est plus intense. Je pense à tous les gens tu vois dont moi j'ai fait partie. À un moment je faisais du HIIT, je faisais une séance de semaine par HIIT de HIIT par semaine. Putain, elle me nettoyait tout. Comme je disais, ça me décalaminait un peu comme le moteur. Bon, je faisais du fitboxing aussi, donc ça faisait 2 séances. Mais tu vois, elle faisait 45 minutes ma séance à chaque fois. Entre le et le HIIT encore, le temps d'effort vraiment violent était à 20 minutes. Alors, je me dis, est-ce que c'est 20 minutes, par exemple, dans une séance de HIIT, tu vois, où tu as vraiment de l'action comme ça, est-ce que ces 20 minutes, elles rentraient dans le intense et que le reste était du modéré et que finalement, bah, plus mes 45 minutes que j'avais de fitboxing, bah, tu vois, j'étais à 65, 70, tu vois, dans ces zones-là. C'est alors, ça qui est pas simple dans la recommandation de l'OMS, en fait. C'est de savoir comment je les place,
mais. Justement, c'est justement là. Merci, Bertrand, pour cette remarque qui est super intéressante. C'est justement ce qu'on veut faire passer comme message ce soir. Ce soir, notre but, parce qu'on enregistre ce soir, mais aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de vraiment comprendre que ce que l'OMS considère comme une activité modérée, pour nous, intense, pour nous, c'est déjà du footing. Pourquoi ? Parce que dans l'activité modérée, pour eux, c'est de marcher à 5,4 km/h. Donc, le modéré, c'est notre marche quand on est pressé, quand on va au travail, etc. Et à partir du moment où on est sur des activités physiques comme on le pratique, à savoir la course à pied, on est déjà dans une activité d'intensité soutenue. Donc, tout à l'heure, tu me disais, mais si je vais courir qu'une fois par semaine, c'est compliqué d'avoir mes 75 minutes d'activité soutenue. Non, tu fais un footing d'1h15. T'as tes 75 minutes d'activité soutenue. Pour ça, il faut quand même qu'on se remette en tête des choses. C'est que les activités physiques, elles s'inscrivent sur un spectre au regard de la VMA. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça va parler à tout le monde. Et ça va aussi beaucoup déculpabiliser des personnes qui commencent à courir et qui se disent « Ah ouais, moi, je commence à courir, mais je suis tout de suite essoufflée. » Moi, je le vois beaucoup quand j'accompagne des gens, que j'aide à se remettre à la course à pied. Tout comme toi, Bertrand, moi, je prône l'idée de faire de la marche. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on expliquait dans un précédent épisode. Hein, si on a une VMA à 10, eh ben, l'allure d'échauffement, elle doit être en dessous de 70% de notre VMA. Donc, 70% de notre VMA, c'est 7 km/h. Donc, 7 km/h, ça veut dire que pour nous échauffer, il faut être en dessous de 7 km/h. Ben, courir à 6 km/h, 5 ou 6 km/h, je trouve ça, c'est parfois difficile. D'ailleurs, il y a des études qui ont démontré que la transition entre la marche et la course, c'était 7,2 km/h. D'un point de vue biomécanique, c'est-à-dire quand on parle de motricité spontanée. Ils ont fait marcher des gens sur un tapis roulant, ils ont augmenté petit à petit la vitesse, ils se sont rendus compte que la motricité spontanée en dessous de 7,2 km/h, c'était de la marche, et au-dessus de 7,2 km/h, c'était de la course. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ma VMA allait à 10, eh ben, globalement, je peux pas courir à l'échauffement. Donc, ça veut dire comment je vais m'échauffer? Je vais marcher vite. Et donc, si je vais marcher vite, bah, là, on est sur des allures qui sont à 6-7 km/h. Donc, on voit bien que par rapport aux recommandations de l'OMS, on est au-delà des activités physiques modérées. On est même déjà dans des activités physiques intenses. Et donc, c'est là où il y a un écart entre ce que l'OMS recommande, qui est un plan général, et l'individualisation de ce plan. Donc là, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est de reposer un petit peu ces différentes allures de course, ce différent spectre des allures de course vis-à-vis de la VMA, ce qui nous permettra ensuite de mieux comprendre les filières énergétiques. Globalement, on va parler de 3 grandes allures et on va mettre en évidence des caractéristiques pour ces 3 grandes allures qui vont nous permettre de nous guider et de savoir dans quelle allure on se situe. J'ai parlé de l'allure lente. L'allure lente, elle va vraiment aller jusqu'au seuil aérobie. Alors, le seuil aérobie, pour faire simple, c'est à peu près 75% de notre VMA. D'accord? On expliquera tout à l'heure le concept des seuils, notamment pour expliquer surtout le seuil anaérobie qui est plus important. Quand on est dans cette allure lente, quels sont les repères que l'on peut avoir au quotidien pour ne pas forcément toujours être en train de regarder sa montre? Bien sûr que le cœur, il bat un peu vite, mais ça va. Le cœur, il est entre, on va dire, 135, 140 battements par minute jusqu'à, allez, on va dire, 150, 155. Voilà. Donc, ça donne déjà un bon chiffre. Mais une nouvelle fois, c'est individualisé. C'est individualisé déjà en fonction de l'âge, parce que la fréquence cardiaque, elle ne monte pas autant quand on est âgé que quand on est jeune. C'est individualisé en fonction de plein de paramètres. On sait que quand on est en surentraînement, on peut gagner 2 à 3, 4, 5, 6 battements par minute. Idem pour le stress, etc., etc. Mais globalement, c'est une fourchette d'un individu. Pareil, en température et en altitude, la fréquence cardiaque augmente. Moi, c'est pour ça que je n'aime pas forcément trop travailler avec la fréquence cardiaque, parce que parfois la fréquence cardiaque nous joue des tours. Et donc, en ce qui concerne les allures, je trouve qu'il y a des repères intrinsèques, des ressentis intrinsèques à construire qui sont bien plus pertinents et bien plus intéressants. À cette allure-là, en fait, je peux vraiment parler sans problème. C'est le blabla run. C'est vraiment le fameux blabla run. Et même, j'ai envie de dire, c'est le blabla run où on n'est pas coupé. Bertrand, cette semaine, on a échangé pas mal de messages audio dans nos footings. Et en fait, je les ai réécoutés. On n'était pas en blabla run, on n'était pas en allure lente. Parce qu'en fait, quel est l'indicateur que je peux avoir? C'est que on faisait des sauts dans nos phrases. On faisait des coupures dans nos phrases et on avait besoin de reprendre un peu nos idées avec 1 ou 2 secondes pour repartir. Là, on voit que mon débit de parole, il est hyper fluide. Une allure lente, mon débit de parole, il est presque aussi fluide que ça. Alors, peut-être pas aussi rapide, parce que là, c'est quand même beaucoup plus simple. Malgré tout, il n'y a pas ces pauses, il n'y a pas ce moment de latence. Donc, c'est vraiment, voilà, j'ai aucun problème pour respirer. Alors, parfois, je vais reprendre une grande inspiration comme ça parce que j'en ai besoin, mais malgré tout, c'est vraiment très, 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 très simple. Je n'ai aucun problème de lucidité. Je suis hyper lucide, je ne suis pas fatiguée, je n'ai pas de problème si je veux changer de trajectoire, si je veux éviter quelqu'un. Ça, c'est des choses très importantes, la question de la lucidité. Une fois que je m'arrête, je récupère hyper vite. Je sens que mon cœur, il va redescendre tout très vite. Je vais pouvoir parler, tenir une conversation avec des gens très, très rapidement. Et puis finalement, c'est une allure à laquelle je peux tenir très très longtemps. C'est mon allure vraiment fondamentale. C'est ce qu'on appelle hein, l'allure de course de fondamentale. Donc ça, déjà, c'est la première allure. Cette première allure, il faut bien se dire que c'est déjà une activité physique intense. Ça correspond déjà, selon l'OMS, à ces fameuses minutes intenses. Et donc, le point de départ de notre travail ce soir, c'est vraiment de se dire, OK. La question, c'est maintenant, du coup, où est-ce que je peux aller chercher des minutes modérées? Parce que si tous les deux, on part du postulat et on pense partir du postulat, parce que moi, je pense faire confiance au professeur Carré là-dessus, qu'il faut mixer et des intensités modérées et des intensités intenses, puisque a priori, déjà rien que quand on est en footing, on a des minutes intenses, c'est où est-ce qu'on va aller chercher des minutes modérées? Les minutes modérées, c'est se garer, comme il expliquait, hein, lui, il se gare un tout petit peu plus loin de l'hôpital et il marche 1 km. C'est se forcer à aller chercher, alors quand on a la possibilité de le faire, d'aller chercher le pain en marchant. C'est faire un petit peu de vélo avec ses enfants ou du roller le week-end. C'est se mettre en activité comme ça, mais c'est une activité qui, pour le coup, n'est pas du tout, est encore moins sollicitante.
Ouais, tu sais, j'ai
Je
fait une
repars sur mes
expérience
allures.
aujourd'hui. J'ai fait une expérience aujourd'hui pour te le
Mais
dire.
vas-y.
Et ça va te le dire. Je suis allé faire des courses en courant. Donc le truc c'est que fallait que j'aille acheter des yaourts pour ma fille, donc je suis parti en courant jusqu'au supermarché. Donc j'ai fait en courant et j'ai fait exprès d'appuyer sur ma montre pour t'sais, le lap pour séparer en fait la partie, parce que après je suis pas parti en courant, je suis parti en marchant du supermarché après avoir fait mes courses. Et ben je me suis demandé quel était l'impact entre les deux, tu vois, la différence. Alors bien sûr il y a une question de vitesse qui est vraiment importante, mais au niveau des battements du battement cardiaque, eh ben, la moyenne de battement, elle est bien plus basse quand tu marches, quand on se pose la question. Et tu vois, en faisant ça, en fait, ben, finalement, grosso modo, j'ai fait 10 minutes de course et 10 minutes de marche dans mon histoire. Et donc, je me suis dit, mais il y a un écart, est-ce que ça va pas faire tant d'écart, etc. Alors, l'allure, elle est totalement différente, mais c'est vrai qu'au niveau du cœur, eh ben, tu vois vraiment que les histoires de battement, ils sont vraiment. Alors, c'est très très cool quand tu marches. Mais dès que tu cours un peu, c'est vrai que tu vois l'élévation tout de suite, et ça l'illustre très bien. C'est-à-dire que moi, le fait d'avoir, tu vois, d'avoir mixé ces deux activités, bah, finalement, alors je dis pas que j'ai pas assez de temps par rapport à ce qu'on recommanderait sur l'OMS et tout, mais moi, bon, après en courant tous les jours sur ma semaine, j'ai largement. Mais par contre, ça montre que quand on fait de la marche, par exemple, pour aller à la salle même d'entraînement, tu vois, parce que moi je rigole toujours des gens qui vont à la salle d'entraînement et qui se gardent devant la porte. C'était genre rigoler quand je voyais les séances de HIIT, le prof il nous fait transpirer dans tous les sens et les gens se garaient devant la porte du truc le plus proche, la pause. Alors tu te dis derrière tu viens là pour pendant 45 minutes, une heure, vraiment faire de l'effort. Et je trouvais que c'était un espèce de paradoxe. Et j'en avais parlé avec le professeur Carré, d'ailleurs, on a dit, il y a un espèce de paradoxe dans ce truc-là. C'est vrai que je connais des gens qui vont à la salle de sport, par exemple, qui y vont en marchant. Et puis ensuite, qui vont faire leur sport, etc. Et donc, qui mixent aussi les intensités comme ça. Et je trouve que c'est intéressant, en fait, quand on observe un petit peu, de mettre un peu le cardio autrement que juste pour courir. Quand on regarde un petit peu ce qu'on fait quand on marche simplement, ben on se rend compte que finalement, ces intensités-là, il y a vraiment une vraie différence entre courir et marcher. Et qu'on peut vraiment... je pense qu'il faut s'observer, en fait. Il faut faire des expériences comme ça pour le voir aussi.
Ah oui, non, mais ça c'est une certitude. Alors après, c'est très intéressant ce que tu dis, mais c'était d'autant plus intéressant de faire de la course puis de la marche que de faire de la marche puis de la course. Parce que tu avais déjà stimulé tes fonctions cardio-respiratoires, donc tu avais déjà augmenté ta fréquence cardiaque, et ta fréquence cardiaque de marche était plus élevée que si tu avais fait l'inverse. Ça serait intéressant de refaire exactement le même parcours, de faire les 10 minutes de marche et ensuite de revenir en courant. Et tu verrais, je pense, sauf erreur de ma part, mais je ne pense pas trop me tromper, que ta fréquence cardiaque moyenne du total, elle sera plus basse dans la deuxième situation. Parce qu'en fait, là où la variabilité va être la plus importante, c'est sur la marche. Et ta marge de début, elle sera moins importante en termes de fréquence cardiaque. Donc effectivement, ce que tu dis, c'est intéressant. Ça veut dire que quelqu'un qui aurait du mal à avoir ces minutes intenses ou modérées, il y a tout un tas de conseils à donner. Et ce conseil d'aller à la salle en marchant, mais moi je pense qu'il est archi précieux. C'est-à-dire même cette idée presque, si on doit y aller en voiture, admettons on habite vraiment trop loin pour y aller à pied, se garer un tout petit peu avant, en fait, parce que je commence à connaître un peu comment fonctionnent les cours collectifs, etc. Il y a des échauffements, bien sûr. Mais une nouvelle fois, les échauffements, ils sont pas hyper personnalisés. Il y a des gens qui ont besoin de s'échauffer plus longtemps que d'autres. Moi, j'en fais partie, hein, je suis un vrai diesel. Et j'adore aller à la salle quand je vais à la salle en courant. Parce que je sais que j'arrive. Alors, il faut bien distinguer, alors ça, on pourra peut-être faire un épisode là-dessus, parce qu'on n'aurait pas le temps d'en parler, mais l'échauffement de base et l'échauffement spécifique, hein, l'échauffement général et l'échauffement spécifique. Mais les deux sont nécessaires, en fait. C'est exactement ce qu'on fait quand on fait de la course et ensuite des gammes de course. Parce que dans un premier temps, on va vraiment chercher à augmenter la température corporelle, mettre en jeu les fonctions cardiovasculaires et cardio-respiratoires. Et dans un deuxième temps, on va vraiment chercher à échauffer des groupes musculaires très spécifiques pour éviter de se blesser et éviter d'avoir des problèmes musculaires. Fin de la parenthèse, mais tu peux noter effectivement peut-être sur ta liste la question de l'échauffement général et spécifique. Je repars sur mes allures. Ouais, mais c'est ça qui est cool. Je repars sur mes deux allures. Il reste deux allures à traiter en course à pied et ensuite on va voir le lien avec les filières énergétiques. On va identifier une allure moyenne qui est une allure entre les deux seuils. Alors, ce qu'on appelle le seuil aérobie et le seuil anaérobie. Alors, le seuil aérobie, en fait, c'est le seuil, la vitesse de course, mais bon, tout est lié, à partir de laquelle je suis vraiment dans une activité de type aérobie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'ensemble de mes processus, qu'on verra, font appel à la filière énergétique aérobie. Donc, on verra justement ce que c'est que cette filière aérobie ensuite. Et le seuil anaérobie, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais en fait, il est précieux parce que, bon, j'essaye de aussi réécouter ce qu'on raconte tous les deux sur un tas de choses. Et puis, on avait évoqué l'idée du marathon il n'y a pas très longtemps avec l'histoire du mur. Bah, typiquement, c'est le seuil anaérobie, le mur, en fait. Si on le verbalise un peu d'un point de vue physiologique, c'est quoi le seuil anaérobie? C'est l'idée que quand on court dans un processus aérobie, on expliquera tout à l'heure, mais la plupart de notre énergie, elle est produite par le fait qu'on est en présence d'oxygène et qu'à ce moment-là, le pyruvate ne se transforme pas en lactate. Le pyruvate rentre dans un cycle qui est complexe que l'on appelle le cycle de Krebs. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais il y a quand même un tout petit peu d'acide lactique qui est produite. Ce fameux lactate qui n'arrive pas à rentrer dans le cycle de Krebs. Et en fait, plus on va augmenter l'intensité de l'exercice, donc cette vitesse de course, plus on va produire ce fameux lactate, parce que ça va trop vite dans le cycle de Krebs, tout n'arrive pas à rentrer. Et donc, en fait, il va y avoir une rebascule, ce qu'on appelle une rebascule dans le processus anaérobie lactique. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le seuil anaérobie. On expliquera plus tard, tout à l'heure, on va comprendre que chaque filière énergétique se caractérise notamment par ce qu'on appelle un facteur limitant, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on arrête l'activité. Et dans le cas typiquement de l'allure, donc l'allure moyenne, c'est vraiment ça. C'est vraiment une allure qui est entre le seuil aérobie et le seuil anaérobie. Donc, si on image avec des pourcentages de fréquence cardiaque, parce qu'on aime bien les chiffres, c'est 75 à 85% de notre VMA ou de notre fréquence cardiaque. Je le rappelle, hein, la VMA, la FC max et la VO2 max sont reliées, sont des valeurs qui sont reliées et qui sont proportionnelles. Donc globalement, quels sont les repères qu'on peut donner pour savoir quand est-ce qu'on est à cette allure? Bah là, clairement, on est un petit peu moins à l'aise pour parler, hein. C'est-à-dire, on va lancer un ou deux mots, une ou deux phrases, mais on va commencer à vraiment devoir forcer notre respiration pendant toute la course, de caler un petit peu notre respiration sur la cadence. Moi, je sais que j'écoute pas mal de musique sur ces allures-là parce que ça donne un tempo aussi et ça permet de pas mal se caler. Et là, on a vraiment un besoin, on sent d'expiration et d'inspiration qui est très important. Clairement, c'est des sensations de course qui sont pas confortables, et on sent que on n'a pas envie d'y rester des heures. Typiquement, le genre d'allure un peu spécifique dans ces valeurs entre le seuil aérobie et anaérobie, c'est le grand classique 6x1000 ou 3x2000. C'est typiquement les séances de prépa cross, hein, on en est pas loin là, donc c'est typiquement les séances de spé cross. Voilà, on est dedans. Donc globalement, le seuil aérobie, c'est une allure qui est spécifique pour un test de 30 minutes, alors que le seuil anaérobie, ça va être une allure qui est spécifique pour un test de 20 minutes. Donc on voit bien, hein, que un volume de travail entre les deux, ça va être un volume de 20 minutes d'effort, quoi, à peu près. Et enfin, donc on a une allure rapide qui est une allure proche de la VMA, donc qui est de 90 à 105, 110% de VMA selon comment on arrive à tenir. Clairement, c'est une allure à laquelle on ne peut pas parler. On ne peut pas tenir cette allure longtemps. Clairement, il doit y avoir des portions de course de récupération. Enfin, il doit y avoir des portions de récupération entre les portions de course. On sent qu'on a une respiration qui est hyper forte. On a un vrai besoin de respirer. On cherche l'air, en fait, presque. L'air ne rentre pas assez. D'ailleurs, c'est le facteur limitant à ce moment-là. C'est vraiment le volume d'oxygène. C'est vraiment l'écart entre le volume d'oxygène que je prends et le volume d'oxygène que je suis capable de traiter dans mon corps. C'est vraiment une allure où je suis plus très lucide. Il faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui tombe en passage, un chien avec une laisse ou un truc que je verrais pas venir, parce qu'il y a un vrai manque de lucidité à cette allure. Et c'est des allures dans lesquelles on n'a pas envie d'être embêté, quoi. On a tous vécu dans des séances à VMA, donc des 30-30, des minutes, ce genre de choses. On n'a pas envie d'être embêté parce qu'on n'est pas lucide et on sent qu'on perd vraiment nos facultés au fur et à mesure, d'ailleurs, des répétitions. Globalement, c'est des allures qu'on a du mal à tenir sur la fin de la répétition. À l'arrivée, c'est souvent, il y a vraiment un truc qui est typique de la VMA, c'est quand on s'arrête et qu'on fait des allures proches VMA, on se met les mains sur les genoux. On se met les mains sur les genoux, on s'effondre. Et ça, c'est typique. Ça veut dire que ça, c'est vraiment qu'on a fait une bonne séance de VMA, qu'on était bien à l'allure. On sent que le cœur va hyper vite et on a vraiment besoin d'un petit peu de temps avant de récupérer. C'est vraiment la séance où on va pas pouvoir repartir sur une allure de footing tout de suite, quoi. On a besoin de 30 secondes ou une minute pour récupérer. Il y a un énorme échauffement et c'est souvent des séances où il y a beaucoup plus de transpiration. Donc pourquoi elles sont intéressantes, ces allures et ces repères? Ça nous permet d'être autonomes, ça nous permet d'être autonomes aussi dans la gestion de nos efforts et dans l'organisation de notre quotidien de course. Typiquement, il faut retenir que l'allure lente, qui est l'allure d'échauffement, donc en dessous de 70%, elle devrait constituer au moins les 20-25 premières minutes de notre temps de footing. C'est voilà, on peut partir courir vite, hein. Ça nous arrive quand on n'a pas le temps ou quand il pleut ou quand machin, ou quand on est en forme et tout, mais c'est pas forcément bon pour le corps, d'une part parce qu'il y a pas de, on n'incite pas à s'échauffer, donc on peut prendre le risque de se blesser, et d'autre part on est beaucoup moins performant ensuite une fois qu'on a, si on part sur des allures qui sont trop rapides. Donc ça, c'est vraiment la première chose sur laquelle je voulais qu'on revienne. Après, on va donner un petit peu des séances types, mais très très rapidement. Je trouve que ça peut être intéressant quand même. Ou alors, on y reviendra dans un deuxième temps quand on aura expliqué la différence entre la capacité et la puissance de chacune des filières énergétiques. Jusque-là, Bertrand, est-ce que tout est clair? Est-ce que toi, tu as des questions à me poser par rapport à ça?
Bon, écoute, moi, je t'écoute religieusement. Je suis en train de regarder en même temps mes entraînements, regarder mes séances, comment elles sont placées, tu vois, ce que j'ai fait et tout.
Ah, bah, je vois que ça t'intéresse, ce que je te raconte.
Ben oui, mais ça m'intéresse parce que tu vois, regarde, j'ai pris ma séance d'hier où j'ai fait un 2x2000 Parce que en plaisantant, c'est la blague que j'ai faite, j'ai dit, je t'ai fait mon petit audio, je t'ai dit, bon, allez, je pars courir, j'ai essayé de voir si je trouve ma VMA quelque part, si elle est planquée ou pas. Et à ma grande déception, je l'ai pas trouvé, hein, mon ancienne VMA, parce que j'avais l'impression d'être au bout de ma vie en courant à 5 minutes au kilomètre. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, mais ça avance pas. En fait, j'avais l'impression d'avancer relativement vite. J'étais assez content des sensations, mais pas de la vitesse. C'était trop confortable, tu vois. C'était vraiment ces espèces de vitesses un peu intermédiaires qui sont confortables pas très longtemps, qui deviennent assez inconfortables quand t'arrives au bout d'un kilomètre, là, que tu dis, ouais, ça devient un peu long. Et qui finalement, des fois, on se demande même si ça sert à quelque chose. Tu sais, c'est un peu une question que j'avais eue et je sais que t'as eu aussi la question. C'est de se dire, finalement, c'est l'histoire de seuil dont on parle beaucoup. On se dit, à quoi ça sert d'être dans ces allures-là, quoi ?
C'est ça, t'es entre les deux seuils. Bah, typiquement, ce que j'expliquais, hein, c'est des séances de cross, elles sont entre ces deux seuils. Hein. Les crossmen et les crosswomen qui nous écoutent, ils doivent très bien comprendre qu'en ce moment, ils doivent faire pas mal de 4 minutes, 8 minutes, 6 minutes avec des blocs répétés dans ces allures à 80-85% de VMA. Voilà, c'est la séance du crossman par excellence. Mais après, dans les prépas marathons, on en fait aussi. Hein. Moi, je suis une adepte des plans qui vont mixer de la VMA, de l'allure au seuil et de l'allure spé. Moi, dans mes plans marathons, il y a toujours une séance dans la semaine où je fais de l'allure au seuil. Donc, c'est des 8 mètres, c'est des 2000, c'est des 4 minutes. Après, ça peut être aussi un peu des pyramides, 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, qui mixent un peu... alors on va le voir, qui mixe et la capacité et la puissance de la filière, on va le voir justement, je vais un petit peu expliquer tout ça, mais alors après voilà, les intensités, les vitesses de course, elles dépendent aussi de beaucoup de facteurs, hein. Pour autant, pour une même vitesse de, enfin, ce que je veux expliquer, c'est que tu peux avoir une vitesse de course plus lente d'un jour à l'autre, alors que physiologiquement parlant, t'es dans la même filière, t'es exactement dans le même type d'effort, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Donc voilà. Donc peut-être qu'on va simplement rappeler les trois filières rapidement, expliquer en quoi elles sont importantes, et puis ça va nous permettre de voir la différence entre la capacité et la puissance de chaque filière, et ça va nous permettre aussi de comprendre que quand on fait un entraînement, bah c'est bien de mixer un petit peu tout ça. Alors déjà, la base de la filière, on l'a dit tout à l'heure, hein, le but des filières énergétiques, c'est de produire de l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la seule molécule dans notre corps qui est capable de nous donner de l'énergie, c'est pas le sucre, c'est pas le gras, c'est pas tout ça, c'est l'ATP. L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. En fait, c'est une adénosine qui est composée de plusieurs liaisons qui sont elles-mêmes riches en énergie. Et quand on va exploser cette molécule, en fait, on va libérer de l'énergie. La problématique, c'est qu'en fait, on a très, très peu d'ATP dans notre corps à l'état initial. Et notre corps, il va devoir nécessairement toujours en recréer. Là où il est bien fait, c'est qu'on a plein de moyens pour recréer de l'ATP en fonction de deux choses. D'une part, l'intensité de l'effort et d'autre part, la durée de l'effort. Bon, bien entendu, c'est une courbe inversée. Hein. On ne peut pas tenir une intensité aussi de sprint aussi longtemps que, voilà, que sur un marathon. Donc, plus mon effort va être intense, plus il va être court et plus mon effort va être long et moins il va être a priori intense. Donc, pour faire très simple, au tout début des recherches sur les filières énergétiques, on pensait qu'il y avait trois filières qui se succédaient dans le temps. Qu'on faisait d'abord la voie anaérobie à lactique, ensuite la voie anaérobie lactique. Il faut que je fasse attention parce que je me trompe tout le temps de manière sans faire attention. Et ensuite, qu'il y avait l'intervention de la filière aérobie. Ça a été démontré que non. Les trois filières interviennent dès le début de l'effort en même temps, mais qu'il y a une filière qui va produire préférentiellement une plus grande quantité d'énergie. Donc, pour faire très très simple, au début, qui est la filière qui intervient ? Ben, c'est la anaérobie alactique. Pourquoi elle s'appelle anaérobie alactique ? Parce que à ce moment-là, on est dans un phénomène où on n'a pas besoin d'utiliser d'oxygène pour fonctionner. C'est un sprint, hein. On peut faire un sprint. D'ailleurs, on les voit à la télé. Hein. Souvent, il y en a qui ont des chewing-gums dans la bouche. Ou sur un sprint de 100 mètres, on n'a pas besoin de respirer presque. On pourrait être en apnée. Prenons l'exemple même en natation, hein, de Florent Manaudou sur 50 mètres qui doit respirer une fois peut-être. Il respire une fois sur le 50 mètres. Donc, ce qui prouve qu'on n'a pas besoin de respirer. C'est caractéristique en natation puisqu'on voit si la tête sort de l'eau ou pas. Donc, sur tous ces efforts qui vont être très très brefs et très intenses, l'oxygène n'est pas nécessaire. Pourquoi on appelle ça alactique ? Parce que ça ne produit pas d'acide lactique. Ici, globalement, c'est la phosphocréatine qui va nous permettre de reconstruire de l'ATP. Donc, c'est pas anodin si on a des cas de dopage à la phosphocréatine, parce que, bah, effectivement, si on gonfle nos stocks de créatine phosphate ou de phosphocréatine, hein, c'est un petit peu la même chose, c'est tous les composés phosphorés. Bah, globalement, il y avait des personnes qui gonflaient leur stock et qui étaient dopées à ça, et du coup, bah, des sprinteurs, hein, et du coup, ils pouvaient recréer de l'ATP hyper plus facilement et avec des plus gros stocks. Donc, ici, globalement, bah, c'est grâce à la phosphocréatine qu'on recrée de l'ATP. Et que du coup, on permet à notre corps de pouvoir fonctionner. Donc, c'est des efforts d'une dizaine de secondes maximum, 10-15 secondes selon l'entraînement. Il faut aussi savoir que l'entraînement permet de repousser un petit peu les seuils. Donc, l'entraînement permet de repousser le délai d'intervention de la deuxième filière. C'est particulièrement important pour le coureur de 400 ou de 800, selon le temps qu'il met. Parce que bah, plus on va retarder l'apparition de l'acide lactique, et plus c'est important, quoi. La deuxième voie, qui est la voie anaérobie lactique, cette fois, dans laquelle, bah, ici, on va quand même déjà commencer à faire intervenir le glycogène musculaire. Mais ici, le problème, c'est que ce glycogène va se dégrader en glucose, donc ça va être, on va fractionner le glucose. Et l'idée, c'est vraiment de dire, OK, quand on dégrade ce glucose en l'absence d'oxygène, eh bien, en fait, le problème de ce glucose, c'est qu'il y a toute une chaîne métabolique qui se met en place. Ça va aboutir à du pyruvate. Et ce pyruvate, le problème, c'est qu'il va se transformer en lactate. Et le lactate, bon, on a tous entendu parler, c'est l'acide lactique. Et l'acide lactique va créer une acidose musculaire. Il y a quelque chose que j'ai pas précisé, c'est qu'en fait, dans chaque filière énergétique, il y a ce qu'on va appeler un facteur limitant qui va faire qu'on va passer nécessairement sur la deuxième filière. Dans la première, on a compris que c'est parce que nos stocks de phosphocréatine, ils sont vite épuisés. C'est pour ça que les gens se dopent à la phosphocréatine, qui rembourse les stocks. Et donc, c'est le facteur limitant. Dans la voie anaérobie lactique, bah, le facteur limitant, c'est l'acidose musculaire. Mmh. C'est parce que je vais produire tellement d'acide lactique que je vais acidifier mon muscle. Et donc, bah, en fait, je peux plus courir. On les voit, hein, d'ailleurs, les sprinteurs, alors, à haut niveau, parce que ça dépend du temps d'effort, hein. On n'est pas tous dans la filière anaérobie lactique sur les mêmes distances. Mais à haut niveau, sur 400 mètres, on voit, ils finissent, ils sont fracassés. Sur 800, c'est la même chose, hein. C'est vraiment l'intervention de la filière lactique en grande intensité, quoi. Donc ici, le facteur qui va induire l'arrêt d'effort, c'est l'acidose du muscle. Et donc, je reviens tout à l'heure à mon seuil anaérobie dans nos allures, dans l'aérobie. C'est là où ça devient un petit peu compliqué. C'est qu'en fait, quand on est en présence, quand on est en aérobie, donc on va le voir, hein, la voie aérobie, ce que c'est. Globalement, il y a deux types de substrats, le glucose et les lipides. Donc, soit on va dégrader nos propres stocks de glucose, donc le glycogène musculaire et hépatique, soit on va commencer à attaquer vraiment notre gras. En fait, si on remet de l'intensité dans ces efforts-là, eh ben on peut rebasculer dans cette filière lactique. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est ça le marathon. C'est que si à un moment donné, j'élève trop ma fréquence cardiaque pendant trop longtemps, eh ben je vais créer de l'acidose musculaire. Je vais recréer cette acidose musculaire et donc je vais recréer en fait exactement les mêmes conditions d'un facteur limitant que si j'avais fait un 400 ou un 800, que j'étais vraiment dans une filière lactique. Et ça, c'est assez déconcertant parce qu'on se dit, bah ouais, mais on n'y est plus dans cette filière. Et si, en fait, on y retombe. Et ça, c'est intéressant à comprendre parce que ça permet de comprendre ce fameux mur du marathon, ça permet de comprendre certaines défaillances parce qu'on a trop tendance à dire qu'on a eu une défaillance par manque d'alimentation, par manque d'hydratation, par manque de tout un tas de choses. Mais en fait, c'est pas forcément que ça. Ça peut être aussi le fait d'avoir augmenté sa vitesse pendant trop de temps. On repasse sur des intensités qui sont trop importantes. Et donc voilà. Et dans la voie aérobie, normalement, si on est en dessous de ce seuil anaérobie, donc en dessous de 85% de notre VMA, bah, le facteur limitant, on comprend bien que c'est pas l'acidose. Pourquoi? Parce que le pyruvate, en présence d'oxygène, lui, il se transforme pas trop en lactate, normalement. Si les intensités sont pas trop élevées, il rentre dans le cycle de Krebs s'il est dégradé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'on voit des ultra-trailers qui courent pendant des jours et des heures. Ça veut dire que clairement, ils sont sur des intensités inférieures à 80-85% de VMA, même si, comme je l'ai dit, en fait, l'entraînement permet de repousser les seuils. Le facteur limitant après sur des efforts très très longs comme ça d'endurance, c'est la fatigue musculaire, Alors, il y a tout un tas d'études qui sont menées là-dessus, qui sont super intéressantes, sur la contractibilité de la cellule musculaire, en fait. Donc, il y a à la fois la question du potentiel d'action, donc tout ce qui est nerveux, et à la fois tout ce qui est physiologique avec le calcium, le potassium, le magnésium, l'ensemble des minéraux qui sont dans la cellule. Là, on a encore très, très peu de recul là-dessus parce qu'il faudrait faire des biopsies chaque minute, chaque heure. Donc, ça serait très, très invasif pour les individus. Donc, c'est des protocoles qui sont pas possibles actuellement à mettre en place. Donc, on fait un peu des tests sur les souris et tout, mais on sait très bien que le fonctionnement de la souris, il est quand même un petit peu différent de notre fonctionnement humain. Et donc, on voit bien, en fait, qu'à partir de 30 à 40 minutes d'effort, on va vraiment oxyder à fond les lipides parce qu'on aura épuisé, en fait, tous nos stocks de glycogène. Que ce soit du glycogène musculaire ou hépatique. Alors, je n'ai pas précisé, mais le glycogène, c'est la forme de stockage du glucose. On appelle ça du glycogène. Donc, on en a dans le foie, on en a dans les muscles, et ça va être les deux pourvoyeurs principaux de glucose dans notre corps. Donc, voilà. Et pour faire simple, au sein de chacune des filières, il y a deux choses. On va parler de la capacité aérobie ou de la puissance aérobie. On entend souvent parler de ça. En fait, dans chacune des filières, on a la filière dans sa capacité, c'est le fait de pouvoir tenir longtemps dans la filière. C'est globalement, on associe souvent la capacité à un réservoir et la puissance à un débit d'un robinet. Et donc, la puissance, en fait, ça va être la capacité que je vais avoir très vite à utiliser cette filière. Donc, globalement, nous, en ce qui concerne le coureur, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de distinguer la capacité aérobie de la puissance aérobie. Donc, la capacité aérobie, elle est typiquement entre c'est notre allure modérée, elle est de 75 à 85% de notre VMA. Et à l'inverse, la puissance aérobie, là, on va être vraiment sur des allures de 85, 90, voire parfois même 100% de VMA. Donc, on va être sur, par exemple, 2 fois 4 ou 2 fois 6 minutes, mais on peut aller aussi jusqu'à des 8 fois, 10 fois une minute, 1 minute 30. On va être vraiment sur ce qu'on appelle des fractionnés courts, en fait. Fractionnés courts, on est sur la puissance aérobie. Et enfin, on sera sur de la puissance maximale aérobie quand on sera sur des séances de VMA. Donc des 30-30, des 15-15, des 20-20, etc., etc. Donc voilà, Bertrand, je pense que ça nous permet de vraiment mieux comprendre un peu comment le corps fonctionne. Ça nous permet aussi de voir que, typiquement, quand on est sur des distances un peu longues et ou sur des intensités qui sont un petit peu trop élevées, c'est aussi le cas sur le semi et sur du 10 km, hein. La fameuse défaillance, elle peut être due à cette acidose et à cette rebascule dans les fonctions anaérobies, quoi.
C'est super intéressant parce que en plus ça explique aussi pourquoi quand les gens regardent les pros là sur Internet, là sur Instagram, en ce moment on les voit tous en train de se faire des mesurer le lactate sur la piste, etc. après l'entraînement. Il y a toutes ces histoires de. L'autre jour j'ai vu ça sur des. On les voit hein, sur hop, ils courent, ils courent, ils courent, tac, ils mesurent en train de rechercher la progression et
Alors,
tout.
pourquoi il mesure? Est-ce que
Oui.
tu as compris du coup par rapport à tout ce qu'on dit? Est-ce que pourquoi il mesure? Je l'ai pas expliqué, je suis pas rentrée dans ce niveau de détail-là. En fait, le seuil anaérobie, c'est un seuil à partir duquel on a une hyperlactatémie. En fait, c'est un seuil à partir duquel, en fait, en gros, c'est une hyperbole le lactate quand on est sur des seuils. Donc, au seuil aérobie, globalement, on est à 2 millimoles de lactate dans le sang. Et au seuil anaérobie, on est à 4 millimoles de lactate dans le sang. Et à VMA, on est à 8 millimoles de lactate dans le sang. Et en fait, on considère qu'on rebascule donc sur cette voie anaérobie à partir de ce seuil à 4 millimoles de lactate. Et c'est là où il y a une hyperacidose. Donc c'est pour ça qu'ils testent en fait. Et pourquoi ils testent? Parce qu'en fait, on sait que l'entraînement repousse les seuils. Donc en gros, ils cherchent à. C'est un peu. À la fois, c'est une mesure et en même temps, c'est une mesure sur laquelle ils ne peuvent pas jouer. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas. Il y a aussi cette idée, alors, ils peuvent jouer dans le sens où derrière ils peuvent adapter l'entraînement pour sans doute revoir les intensités, etc. Mais l'idée, elle est vraiment là. L'idée, elle est de se dire, OK, est-ce qu'on est dans des processus aérobie purs ou est-ce qu'on a déjà rebasculé sur la voie anaérobie? C'est vraiment ça, en fait. Alors, l'athlée a du retard hein, par rapport à ça, parce que les nageurs le font depuis très très longtemps, notamment les nageurs en eau libre. Ça fait des années et des années qu'ils se testent au lactate. Pour le coup, c'est des protocoles qui sont pas invasifs, hein. C'est un tout petit trou comme les diabétiques. Ça se fait très vite et tout. Les triathlètes l'utilisent aussi beaucoup. Et c'est vrai qu'en athlée, on est un petit peu en retard par rapport à ça, parce qu'on s'y met seulement un petit peu maintenant. Et c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes à faire grâce à ça, ouais.
Et puis j'avais vu aussi un reportage un jour sur Pierre-Ambroise Boss, sur justement sur ces histoires de coureurs de 400, des 800, des 1500, etc. En disant que ces coureurs-là, repoussent tellement les limites de leur corps qu'ils ont des taux de lactate dans le corps qui sont mortels normalement. Enfin, il y a des doses qui sont tellement importantes et c'est aussi pour ça que ce sont des courses qui sont... Tu l'as bien montré en fait, hein. C'est-à-dire que ils doivent repousser en fait des seuils où finalement le corps normalement il devrait arrêter musculairement et qu'il y a tellement de lactate etc que théoriquement ça marche plus et c'est pour ça que l'entraînement leur permet de repousser et que justement ils le mesuraient aussi, hein. Ils avaient fait des mesures pour regarder jusqu'à quel point ils étaient capables de repousser en disant que c'était des... normalement on n'est pas en bonne santé quand on a ça mais eux forcément c'est le sport les amène à aller dans ces allures-là. Et on voit que c'est toute la difficulté d'ailleurs de certaines disciplines parce que tu le dis à un sprinter, on se dit bon, il court le plus vite possible, il va mettre 9 secondes et quelques, boum, il est dans ses trucs, on sait dans quelle zone il est. Un coureur qui fait du fond finalement, de la longue distance, on sait, enfin, tu le disais, le trailer, on sait qu'il va jamais être extrêmement rapide ou alors très rarement. Mais ces coureurs, quand on fait de la piste, mais après, sur les niveaux, ça va varier. Ben, c'est vrai que c'est des difficultés d'arriver à doser, il faut tenir le choc. Et on le voit qu'il y a quand même beaucoup de coureurs sur des distances qui ne tiennent pas le choc sur les derniers trucs, ils ne s'avancent plus. Alors après, il peut y avoir le mental, il peut y avoir plein de choses qui jouent. Mais on comprend aussi que le corps, quand tu disais ces facteurs limitants, ça joue beaucoup sur ces éléments-là en fait. Hein. C'est-à-dire de dire, ben, il faut qu'ils arrivent à gérer ces allures-là. Et on voit qu'il y a courir, j'ai envie de dire... Ça explique peut-être aussi pourquoi il y a certains coureurs. Moi, j'avais été marqué un peu par certaines personnes qui faisaient du sprint ou quoi. Ils disaient, ouais, mais tu sais, moi, courir un marathon, je le ferai pas parce que j'ai pas de quoi le faire en fait. Alors que ça paraît paradoxal, mais c'est qu'en fait, ils s'entraînent pas non plus pour le faire. C'est-à-dire que le marathonien va s'entraîner justement dans certaines allures, certaines filières, quand le sprinter va s'entraîner sur d'autres choses et le coureur de 4, de 800, de 1500, il est encore sur un autre. Type d'exercice.
Ouais, c'est tout à fait ça. C'est vraiment cette idée que l'entraînement, de toute façon, produit des adaptations physiologiques et métaboliques. Et notamment, l'entraînement permet d'accepter des seuils plus importants. C'est ce que tu expliquais avec les coureurs de 800. Tout le but d'un coureur de 800, c'est de s'habituer à l'acidose musculaire. Mmh. C'est-à-dire que ce que tu expliquais, c'est qu'en fait, ils ne vont pas forcément. Alors, je pense, enfin, il y a déjà le fait qu'ils vont en produire moins pour une même vitesse de course, donc parce qu'ils vont décaler le seuil. Donc, à une même vitesse de course, et voire même avec des vitesses supérieures, ils vont produire un tout petit peu moins d'acide lactique. Et en même temps, ils sont capables de mieux le tolérer. Parce que, globalement, on va pas revenir dans le détail vraiment physiologique, mais qu'est-ce que ça produit, cette acidose? Ça empêche les contractions des ponts d'actine et des myosines. Ça bloque la contraction, en fait. Donc, le muscle, il ne se contracte plus. Et on l'a tous vécu, hein. Cette arrivée vraiment, où on a une acidose qui est telle, que derrière, on a du mal à rien qu'à faire une foulée, à produire une foulée. Et on le voit. C'est typique sur 400 mètres haies, on voit vraiment le franchissement des 3-4 dernières haies, il est très étriqué, il est pas beau, il est et parce qu'en fait les mecs sont bourrés d'acide lactique. Alors quand je dis les mecs, c'est pas péjoratif, c'est les athlètes, hein. Les filles et les hommes, ils sont bourrés d'acide lactique et à ce moment-là en fait la contraction musculaire elle est hyper hyper difficile. Donc le facteur limitant, c'est absolument pas une histoire d'oxygène, c'est absolument pas une histoire de réserve d'ATP comme on a dit, c'est vraiment le fait que notre muscle n'arrive plus à se contracter de lui-même et l'entraînement permet de justement repousser ces seuils et d'accepter beaucoup mieux ce truc. Mais c'est exactement la même chose quand on s'entraîne sur des courses plus longues, du 10 km au semi et au marathon, hein. Faire des séances au seuil, c'est aussi s'habituer à ça. Parce que sur les derniers kilomètres du marathon, si on finit bien avec des bonnes allures, moi j'ai eu la chance de le vivre entre le 37e et le 41e, d'être vraiment avec toutes les caractéristiques que j'ai citées tout à l'heure d'une séance tactique. Moi je l'ai vécu entre le 37e et le 41e de mon marathon, avec vraiment cette acidose qui commence à venir de plus en plus, ce côté très désagréable, ce manque de lucidité et tout. Mon facteur limitant, c'était vraiment que ça. C'était vraiment cette rebascule parce que j'avais vraiment eu cette intensité que je souhaitais à 80-85% de ma VMA. Et une nouvelle fois, c'est ce qu'on expliquait aussi, et je voulais rebondir là-dessus, on a parlé du mur du marathon et tout. Pourquoi il n'y a pas de mur quand on a un marathon en 2 heures? Alors, même si on voit des athlètes français, hein, comme je pense à Florian Carvalho, qui a des difficultés à passer le cap du 30e, 34e, en ce moment, il est un peu bloqué par rapport à ça. Mais ça reste physiologique, en fait. C'est-à-dire que peut-être que simplement, en ce moment, ça reste du physiologique, ça reste des allures de course et des intensités de course qu'il n'arrive pas à suivre, qu'il n'arrive pas à encaisser parce qu'il est jeune sur marathon. Florian, au départ, il était sur des allures, je le connais un petit peu, il était sur du 1500 mètres, sur du 10 000 mètres, donc il est jeune sur marathon. Et donc peut-être que en montant, et ça c'est assez intéressant effectivement de se dire que cette capacité du corps à absorber les charges, elle est aussi sur la capacité du corps à accepter les facteurs limitants et à repousser les facteurs limitants.
Et tu vois, c'est drôle parce qu'il y avait une question dans tes fans sur le Amsterdam Running Club, justement, qui voulait revenir et voulait faire un dribble sur l'histoire du meilleur du marathon. Donc, on l'a fait un petit peu de manière un petit peu décalée. Mais c'est vrai qu'on le voit, hein, d'ailleurs, qu'il y a plein, hein, qui ont du mal à passer le cap, de passer du semi au marathon, qui ont vraiment des interrogations. On voit que c'est pas simple, hein, que le doubler la distance amène aussi d'autres pratiques. On en avait parlé sur l'alimentation. Moi, j'avais été très marqué par ces histoires-là que le champion du monde de semi n'arrive pas à courir un marathon à la même vitesse, mais tout simplement parce qu'il doit apprendre à manger et à s'alimenter. Quand on passe de 1 heure à 2 heures et quelques courses, bah, y a un truc qui intervient et ça se comprend très bien avec ces histoires de filières, d'énergie, à un moment donné, il faut remplir le réservoir, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas courir indéfiniment à ces allures-là sans remplir le réservoir à un moment donné. Et ça se comprend très bien. Alors, il y a quand même un truc, tu vois, moi je me disais, j'avais deux remarques. Est-ce qu'un coureur lambda comme nous, tu vois, sur une course, on peut passer sur les trois états, sur les trois filières, est-ce qu'on pourrait s'entraîner, tu vois, par exemple, je te donne un exemple. L'autre jour, je fais mon 10 km, je pars un peu vite, je sais pas en quelle allure je suis, alors, enfin, ma montre, elle me dit que je suis en seuil, tu vois, sur le truc. Bon, bref. Et à la fin, je me dis, mais j'aurais bien aimé sprinter, tu vois, parce qu'il y avait l'autre là qui essayait de me gratter une place là et tout. C'est très couillon. T'arrives 400e et t'essaies de gratter une place. Bon, c'est comme ça, on est comme ça. Comment on pourrait s'entraîner, tu vois? Est-ce qu'on peut s'entraîner d'ailleurs pour arriver à faire le sprint là, les 100 derniers mètres? Ou est-ce que techniquement, ben, on peut pas le faire?
Alors, j'ai complètement compris ta question, elle est super intéressante. Il ne faut pas confondre, en fait, le fait que la filière anaérobie lactique dont j'ai parlé, elle peut revenir dans notre course. Donc, ce qu'il faut vraiment distinguer, c'est que quand on court, on est vraiment dans une filière aérobie. Parce qu'en fait, on considère qu'on est dans des processus aérobies globalement à partir de 3 minutes. La VMA, elle ne peut se calculer qu'à partir de 3 minutes de course. C'est le temps, c'est le délai minimum, je ne l'ai pas précisé, c'est vrai, hein, qu'il faut pour que l'ensemble des processus, pour que la filière aérobie soit majoritaire dans la resynthèse de l'ATP. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on peut rebasculer sur de l'anaérobie lactique, vers des seuils avec un mode de fonctionnement et de resynthèse de l'ATP avec un facteur limitant lactique. Par contre, on ne rebasculera jamais sur un mode de sprint anaérobie lactique. Ça, c'est pas possible. Par contre, donc ça, c'est quand même important de le rappeler. Par contre, effectivement, ta question, elle est sur comment je peux m'entraîner à finir vite quelque part un effort. Bah, alors là, il y a plein de choses. Il y a à la fois donc la programmation dans la temporalité de l'entraînement avec on en parlait hein, ensemble des phénomènes de surcompensation, etc. Dans le premier épisode. Mais surtout, c'est cette idée en fait de varier les allures à l'entraînement. Et c'est pas anodin si tout à l'heure je disais que moi sur marathon, je pense que dans un plan, il faut les trois allures, l'allure SP, l'allure au seuil et la VMA. L'allure qui va vraiment te permettre de retrouver cette vitesse, d'avoir une vitesse forte en aérobie, c'est ce qu'on appelle la PMA, la puissance maximale aérobie. C'est les séances de VMA, c'est les séances de 30-30, c'est les séances de 20-20, c'est les séances de même... Alors moi, j'adore le 15-15, je trouve ça génial pour le coup, ou le 15-15 ou le 20-20, c'est un petit peu... Mais 15-15, c'est encore plus marqué, de finir les séances par 6 fois 15-15 ou 3 fois 6 fois 15-15. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, globalement, on s'arrête jamais. C'est-à-dire, il n'y a pas 15 secondes où on court et 15 secondes où on marche comme des 30-30, où c'est assez marqué, où on a bien cette posture, les mains sur les genoux, patati patata, dont on a parlé. Le 15-15, en fait, c'est tellement court que si on s'arrête, on n'a pas le temps de repartir. Et en fait, on est davantage sur un footing un peu en ondulation, là, où je ralentis, je repars. C'est un petit peu de la relance permanente. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que là, on est vraiment à PMA. Donc, on est vraiment sur... on est presque à 110% de VMA si on joue bien le jeu. Et ça permet donc de travailler la VMA, pour le coup, d'augmenter la VMA, de travailler ses allures très très rapides et très spécifiques. Et en même temps, je trouve ça assez ludique, assez sympa. Ça permet de terminer toujours sur cette petite touche. Moi, je termine aussi souvent mes footings lents. Je conseille toujours de faire des lignes droites, ce que j'appelle des lignes droites. Donc, globalement, ça dure 100 mètres, ça dure 20 secondes. Le but, c'est vraiment de reprendre une attitude de course placée, parce que bon, là, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est pareil, hein. Sur un sprint, on va être davantage efficace sur une foulée en cycle avant qu'en cycle arrière, qu'on peut adopter de manière plus économique, sur du marathon ou ce genre de choses. Donc, pour terminer vite, clairement, il faut avoir la disponibilité pour terminer vite. Donc, la première condition, c'est de ne pas avoir rebasculé dans cette filière, dans ces processus anaérobies lactiques qui auraient fait qu'on est dans un mode d'acidose musculaire. Typiquement, je me revois dans mon dernier kilomètre du marathon, j'étais cuite, je n'aurais pas pu accélérer, parce qu'il y avait cette acidose qui faisait que. Mais donc ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut avoir de la vitesse. Tu ne peux pas accélérer si tu n'as pas de vitesse. Donc c'est ce qu'on expliquait avec ta VMA, où tu perds des points de VMA, où tu penses perdre des points de VMA. En fait, voilà, c'est vraiment travailler sur le test et juste de la vitesse, quoi.
Oui, bon, bref, faut que je travaille ma vitesse. Mais ça, je sais, il faut que je travaille ma vitesse. Hein. C'est, à un moment donné, c'est, tu le dis, hein, les séances de... Mais 30-30, moi, je trouve que c'est ludique, puis c'est facile à faire. Bon, le 15-15, j'ai pas essayé, mais on va tous essayer du 15-15, tu sais, de ce mardi.
Alors sinon, il y a un truc vraiment top, c'est le 36-36. Pourquoi le 36-36? Parce qu'en fait, si on est sur une piste et qu'on balise la piste tous les 10 mètres, alors on a tous nos montres hein, maintenant, mais ça, c'est un... Ça, c'est un petit retour de mes années prof de PS qui revient. Et ben, globalement, si je fais 120 mètres, ben, j'ai couru 12 km/h sur le 30-30. Donc, si on est en club, ben, c'est cool parce que ça permet de savoir un petit peu sans toujours regarder sa montre. Et moi, j'aime bien parce que ça permet de ne pas être tout le temps en train de regarder la distance qu'on a couru sur la montre, etc., de se détacher un peu de la montre. Donc, 36-36 ou une 12. Voilà, dans les deux cas, on balise. Et puis, c'est sympa, c'est des petits repères comme ça.
Moi, dans ma jeunesse, j'étais plutôt 36-15, mais bon, après, c'est autre chose.
le Minitel que je n'ai pas connu.
Eh oui, la grande époque du Minitel, tu sais, mais c'était ça, on s'amusait sur le Minitel. Qu'est-ce qu'on a pu faire des grosses factures?
Si, j'ai connu en plus. Dis ça, mais j'ai connu.
C'était la blague. Bref, ben écoute, on a appris plein de choses hein, aujourd'hui. Moi, je ressors avec une connaissance et tout. Alors, bien sûr, moi, je réécouterai pour essayer de tout enregistrer. Je vais noter ça dans mon second cerveau, tu sais. Comment conclure? Parce que finalement, le truc à retenir, on a bien compris ces histoires de filière, de fonctionnement, l'importance finalement que toutes les allures, elles sont importantes. On a bien compris que de toute façon, les recommandations de l'OMS, du moment qu'on court, on est déjà dans l'activité, on n'a pas trop à s'inquiéter sur le fait qu'on a l'activité, on a notre dose d'activité intense. Du moment qu'on marche, on a notre activité modérée. Jusque-là, je suis bon.
On peut peut-être aussi évoquer l'idée du renforcement musculaire dont on n'a pas du tout parlé, mais qui permettrait de faire la dernière recommandation de l'OMS. Moi, je pense que c'est important dans la semaine du coureur d'avoir une séance de PPG. Donc, on pourra peut-être en discuter, hein, comment programmer une semaine d'entraînement type, par exemple, ou de terminer toutes ces séances par un petit peu d'abdos, gainage, tout ça. Mais on verra que ça sera sans doute un conseil qu'on donnera pour briser la sédentarité la semaine prochaine.
Ouais.
Et ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que le corps, globalement, il a plusieurs manières de recréer de l'énergie. Et que selon ses manières de créer de l'énergie, en fait, ça va être aussi à nous de l'aider là-dedans. Donc typiquement, à partir du moment où on est dans un effort aérobie, il faut non seulement alimenter notre corps, parce que lui apporter du glucose, on en pourra en faire un épisode aussi hein, sur comment s'alimenter à l'effort, à quel moment, quel type de glucose, parce qu'il existe globalement trois grands types de glucose, mais on pourra en discuter. Donc comment aider mon corps à ne pas se sentir en peine par rapport à ça. Il y a aussi cette transition dont on n'a pas parlé dans la filière aérobie sur j'aime bien, je le sens parfois quand je suis un peu limite, quand j'ai pas trop petit déjeuner le matin, on peut sentir en fait vraiment la bascule sur les processus lipidiques. C'est-à-dire vers 35 à 40 minutes, c'est le moment où notre corps il va passer en mode davantage utiliser les graisses plus que le glucose. Et on sent, en fait, sur des footings à allure régulière, sur des allures un peu constantes, qu'on a une petite baisse de régime à ce moment-là. Parce qu'en fait, on a vraiment l'illustration parfaite que notre corps, bah, il utilise des voies différentes. C'est un petit peu comme s'il prenait un chemin d'un seul coup différent. Et donc, bah, ça peut être des repères, hein, pour nous, en tant qu'athlètes, pour, tiens, s'alimenter vers la 35e minute, 30e minute, parce que c'est un moment où, moi je le sais, hein, c'est un moment où mon corps, il aime pas ça, passer de la voie majoritairement glycogénique à la voie lipidique. Donc ça peut être un conseil. Donc comprendre comment le corps, il refabrique de l'énergie, ça c'est important. Et aussi comprendre que tout est une question de fréquence cardiaque et que sur un effort continu et pour pouvoir faire une performance sur un effort trop long, eh bien, la rebascule dans des intensités trop élevées peut nous conduire à un facteur limitant qui est l'acidose musculaire. Mmh. Et inversement, le fait aussi de ne pas suffisamment courir en endurance fondamentale. Alors, il y a tout un tas de théories là-dessus. Hein. Je sais que tu en as déjà parlé sur les coureurs kényans qui passent beaucoup de temps à courir lentement, etc. Bah, l'endurance fondamentale, elle est là. Hein. Elle est sur ces allures très, très lentes. Et donc, c'est cette idée de varier les allures un maximum. C'est vraiment de varier les allures un maximum.
Et ça me rappelle un conseil que m'a donné un coureur du club qui avait fait 8 marathons quand il m'a donné ce conseil. Il m'avait dit, tous les marathons où je me suis planté, c'est ceux où je suis parti trop vite. Il me dit, ça joue pas à grand chose. Il me dit, ça joue à quelques secondes au kilomètre. Mais il me dit, sur l'accumulation des 10 ou 12 premiers kilomètres, il me dit, je le paye, à un moment donné, je le paye au 30e. Il m'a dit, ça joue pas à grand chose. Il m'a même montré, en fait, par rapport à son entraînement, il m'a dit, ça joue à 2-3 secondes. C'est-à-dire que c'est vraiment... tu parles de limite et tout, lui, il avait cerné qu'en fait, avec son même niveau d'entraînement dans la même saison, bah, il suffisait qu'il soit un poil plus rapide, et ça joue à quelques secondes, donc un peu plus de fréquence cardiaque, un peu plus de fatigue, etc. Et ben derrière, après, il le payait sur la suite de sa course, parce qu'en fait, bah, ça se comprend, hein, il avait tapé dans les réserves, il avait tapé dans ses capacités, ou alors il avait généré un peu trop de lactate et donc la contraction devenait plus compliquée.
Mais là, ça serait intéressant qu'on recueille un petit peu des témoignages. Si n'hésitez pas à nous envoyer vos questions là-dessus et vos témoignages de marathon, parce qu'il y a une théorie, hein, Véronique Billat, elle met en place une théorie, elle a écrit un livre qui s'appelle Révolution Marathon, et elle dit tout l'inverse. En fait, elle dit qu'il faut partir vite et elle étudie les chronos des meilleurs mondiaux. Et en fait, elle démontre, et c'est très intéressant, hein, elle démontre qu'en fait, bah, ils partent tous vite. Sur les 10 premiers kilomètres, ils partent vite. Donc, ce qu'on peut lancer comme débat ce soir, c'est ça. C'est faites-nous un petit état des lieux de vos courses respectives, que ce soit sur semi ou sur marathon, parce que bon, même si les distances sont pas tout à fait les mêmes, mais ça peut être intéressant de nous raconter un petit peu votre expérience là-dessus pour que nous, on puisse aussi s'en imprégner et vous faire partager des choses dans les épisodes à venir. Mais c'est un point qui est intéressant, ouais, comme quoi on est tous différents et que on n'est pas forcément tous sur les mêmes modes de fonctionnement. Parfois, on peut avoir des individualités malgré des théories qui sont bien rodées.
Et oui, et comme quoi, peut-être qu'on remettra en cause ces fameuses théories dans quoi il faudrait faire la deuxième partie de son marathon plus vite que la première. On le voit, mais et c'est vrai qu'en plus, on le voit souvent. Hein, y a plein de... C'est très rare, hein, très rare quand on voit en tout cas, les grands champions le faire. Et d'ailleurs, j'ai même vu un compte Instagram qui se félicitait, qui remarquait en disant, bah tiens, elle a réussi à le faire alors que nous, on n'arrive pas à le faire. Donc, ça montre quand même qu'il y a des théories entre ce qu'on voit dans la théorie et dans ce qu'on arrive à appliquer au quotidien. Y a une grande différence, c'est l'expérience. C'est la pratique, l'entraînement, l'expérience. Et ça fait partie de la performance. Hein. Donc, on en reparlera très souvent, hein, de ce sujet-là. En attendant, on va conclure. Hein, pour dire que la semaine prochaine, on reparlera de ces questions de sédentarité, de tout ça. Puis en fait, on a plein de trucs parce que au fur et à mesure qu'on creuse, on trouve d'autres trucs. Moi, j'ai reçu tout à l'heure un livre. Il faut qu'on lise d'abord pour savoir, mais c'est vrai qu'il pose quelques questions sur certains trucs. On dit tiens, il y a ça, et puis après on regarde, il y a d'autres trucs, et puis il y a encore d'autres choses, et puis on va chercher d'autres éléments. C'est un univers qui est quand même assez important. Et moi, j'ai quand même le sentiment, tu vois, sur l'histoire de la sédentarité, que il y a un moment, on va commencer à se pencher quand même sur ce vrai problème de société qui est vraiment un gros problème. Et c'est pour ça qu'on en parlera la semaine prochaine aussi, de voir un petit peu comment on peut le casser. Moi, j'ai fait des expériences cette semaine, hein, parce qu'on avait commencé à en parler. Je fais des expériences qui sont assez intéressantes d'ailleurs sur finalement
qu'est-ce que je fais dans mon quotidien? Et selon mes journées, ben, je me rends compte qu'il y a des jours où je suis totalement sédentaire et puis des jours où je suis pas du tout sédentaire. Et là aussi, hein, on va lancer des expérimentations, des choses comme ça. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine parce que je crois aussi que c'est important d'en parler et peut-être de rassurer certaines personnes aussi. Qu'on a peut-être pu des fois dire entre la sédentarité, le mouvement, est-ce qu'on bouge assez, comment il faut bouger, etc. Et tous ces trucs-là. Bref, c'est un vaste sujet, hein. On a de quoi faire pas mal d'épisodes encore.
Ouais, non, c'est vrai que c'est chouette. Et puis surtout, si vous avez des questions ou des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas aussi à nous en faire part. On aimerait bien vous investir et vous répondre à vos questions, que vous vous sentiez concerné aussi par toutes ces thématiques, même si nous, on a pas mal d'idées. Et puis, comme on se fait nos blabla run régulier avec toutes nos questions, Bertrand, je crois qu'on a un stock inépuisable de prochains épisodes et c'est très bien comme ça.
En tout cas, je peux même te dire qu'il y aura un dribble à faire sur le stress parce qu'il y a une question qui est arrivée sur l'Amsterdam Running Club sur le stress. Donc on reparlera du stress et je vais rassurer Sylvain sur la question parce que c'est une question et notamment qui est super intéressante sur une routine sécurisante autour du stress avant les courses. Et parce qu'on en a un petit peu évoqué, j'ai un petit peu évoqué dans mon intro de l'épisode sur le stress, je crois qu'on pourra refaire un dribble, donc on va faire des dribbles sur ce sujet-là, et c'est l'importance des questions, et je le dis tout le temps, l'importance des questions, parce que c'est comme ça qu'on aborde les sujets qui sont vraiment importants pour vous tous qui courez, parce que moi j'ai plein de questions, mais on a tous notre expérience différente, et c'est vrai que l'intérêt, c'est de pouvoir répondre à vos questions, de pouvoir vous aider tous les uns les autres avec vos questions. Donc, n'hésitez pas à en envoyer parce que il y en a plein. Et moi, des fois, je pioche dedans, il y a des trucs et puis je me dis, tiens, ça fera des super sujets. Donc, je te le dis déjà, tu vois, hop, j'en rajoute à la liste. Et voilà. Bon, bah écoute, sur ce, moi, je vais continuer à manger une petite papillote. Enfin, j'ai mon stock, il faut que je... Non, c'est une blague. Il est 22h25, à cette heure-là, on ne mange plus de chocolat, sinon on dort mal. C'est un autre sujet, tiens, tac, on marquera, c'est un autre sujet sur les apports de sucre, sur le sommeil, sur les liens qu'il peut y avoir et tout.
Un sujet à chaque parole.
À chaque fois qu'on... Et c'est ça le bonheur, en fait, je trouve. C'est qu'à chaque fois qu'on fait des trucs, on a plein de sujets, on peut dire, tiens, il y a ça, il y a ce truc-là, il y a ce truc-là, comment on fait pour faire ça. Je rappelle que je mets tous les liens pour te contacter en note de l'épisode, hein, un petit lien, etc., vers ton site, vers ton adresse mail, et puis, que te souhaiter une bonne nuit, hein, bonne semaine, en tout cas, hein, parce que je rappelle que là, on enregistre le jeudi, qu'on diffusera ça le lundi.
Même si je pense qu'à mon avis, on va se faire encore plein de blabla run d'ici là.
Oui, mais nous, plein de blabla run. Je t'ai pas demandé où t'en étais sur ton objectif, course, pas course, finalement, qui arrive, parce que la date approche.
Ouais, non, j'ai décidé de jouer la carte de la prudence. Je n'irai pas au marathon de Nevers, à contre-cœur, mais j'ai trop mal encore en footing et tout. Donc, je joue la carte de la prudence. Et je me donne le même objectif que toi, Bertrand, de me faire un corps fort pour l'hiver et pour pouvoir attaquer les marathons au printemps avec un corps plus solide et plus résistant surtout à la charge d'entraînement parce que l'objectif c'est quand même de faire un chrono et je te remercie de ta question.
Et ben voilà, et ben écoute, sur ce, on clôture cette session d'aujourd'hui. Je pense que vous avez appris beaucoup de choses, vous avez compris que la minute perf elle dure beaucoup plus longtemps que la minute perf. En fait, pour tout vous dire, et on va le dire, hein, on s'est calé sur la sortie, sur une sortie normalement qui était footing plutôt court. Là, on part sur de la sortie longue, hein, mais on est en train de... Il faut qu'on se cale un petit peu. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment important parce que de bien comprendre comment fonctionne son corps, toutes ces histoires-là, c'est quand même un élément important. Et je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Donc, je te remercie beaucoup pour tout ça. Je comprends beaucoup mieux mon corps.
Avec grand plaisir.
Si, après, j'aurai plein de questions sur les filières, sur les lipides, sur les glucides, sur l'ATP, sur plein
de
choses
comme ça.
Ça
viendra dans un deuxième temps.
Mais on en reparlera. Voilà, c'est promis.
Et avec plaisir.
Et ben écoute, je te remercie. Je te souhaite une belle soirée. Je te souhaite une belle semaine. Et puis, je vous souhaite tous une très, très belle semaine. Et on se retrouve toute la semaine pour les nouveaux épisodes. Et puis, la semaine prochaine pour une minute perf. Allez, on va continuer à bouger. Ciao, ciao.
Bonne soirée et bonne semaine à tous.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.